on va ensemble considérer, puis là, je prends de l'avance, ok, c'est un peu, parce que vous savez, le thème, on l'a vu ce matin, le thème du mois de mars, c'est Christ notre sagesse, mais le thème du mois de Pâques, là, du mois d'avril, c'est le 17 avril, Pâques cette année, ben c'est Christ notre Pâques, fait que là, le message, c'est Christ notre Pâques dans la pureté de l'Église, je vais vous expliquer pourquoi, là, c'est comme, je prends de l'avance, mais vous allez voir pourquoi. On va juste lire quelques petits versets comme ça pour s'introduire. On va en lire d'autres durant le message, mais on est dans 1 Corinthiens 5. Et on va lire juste les versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Le message pour aujourd'hui et pour aussi le prochain repas du Seigneur qui, Dieu voulant, devrait être le 27 mars, ça va être un peu, si vous voulez, la préparation pour Pâques. Puis c'est ça que je disais un peu ce matin. C'est spécial, vous savez, on n'a jamais fait une préparation pour Pâques comme on a fait là, puis c'est vraiment le Seigneur qui a orchestré ça. Vous savez, dans Matthieu, on est dans l'histoire pascale, dans le fond, la passion puis tout ça. Et dans ce sens-là, on a des repas du Seigneur où est-ce que j'aimerais qu'on considère ensemble, c'est quoi le sens de Christ, notre Pâque? Pour voir, dans le fond, comment l'Ancien Testament préfigurait cette Pâque-là qu'on va célébrer, nous, en tant que croyants du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, on va le voir avec, c'est quoi la fête qui précédait immédiatement, là, juste avant la fête de Pâques? Comment on appelait cette fête? La fête des pains sans levain. OK? Et c'est un type de la pureté, de Christ et tout ça. Puis bon, même, ça ressort aussi là-dedans, la pureté et la vérité. OK? Alors, on va simplement tirer des leçons de référence pertinentes du Nouveau Testament sur le mot « levain ». OK? C'est quoi ça, ce levain-là? C'est quoi? Parce que, on a des bonnes leçons à tirer de ça. À quoi ça ressemble une Église dont Christ, la Pâque, en est la pureté? Parce que, dans le fond, vous savez, le levain, bon, on dit que c'est un type du péché, c'est un type du mal. Puis, c'est vrai, en fait, si on définit brièvement le levain bibliquement, dans les Écritures, ça communique l'idée de l'influence du mal, du péché, son influence qui amène un plus grand effet. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de mal engendre beaucoup de conséquences. C'est ça le type du levain. Donc, un peu qui affecte l'ensemble, comme dans un pain. Dans une pâte, je devrais dire à pain, on met un peu de levain et là, tout le pain lève avec ça. C'est vraiment ça l'image qui est utilisée bibliquement. Mais par rapport à l'influence du mal, du péché. Donc, on va considérer les références au levain dans le but de voir ce qui peut menacer la pureté d'une église comme la nôtre afin de célébrer Christ notre Pâque dans la pureté et la vérité. D'abord, le texte qu'on vient de lire, 1 Corinthiens, c'est de ce texte-là qu'on a l'expression « Christ, notre Pâque » qui a été immolé. C'est important de noter que cette lettre est écrite aux Corinthiens et les deux épîtres aux Corinthiens, en fait, mais spécialement le premier, sont bien importants pour définir bibliquement quel rapport le chrétien doit avoir à la culture. Parce que c'était très problématique à Corinthe. Et tu sais, on a des expressions maintenant, on l'entend dans le monde anglophone, en français, je ne sais pas l'équivalent qu'on donne, mais to be culturally relevant, d'être à propos, d'être approprié de façon culturelle. On fait ça pour que, tu sais, le monde soit content. On entend ça dans les milieux chrétiens. Bien, il y avait pas mal ça, ce concept-là, cette idée-là, à Corinthe, où est-ce que la culture païenne avait une grande ascendance sur cette église, sur la communion de cette église. Et je crois que c'est notable que cette église, qui était très infiltré, influencé par la culture ambiante païenne, se fait diagnostiquer par le Saint-Esprit, ici, dans comme ayant un agent actif qui est identifié comme la malice et la méchanceté. juste avant de vous définir ces deux termes-là, c'est un peu comme si vous voulez, ces gens-là qui recherchaient la sagesse, ils la recherchaient pas à la bonne place. C'était pas la sagesse d'en haut qui est pure, conciliante, exemple de, ok, de toutes les choses mauvaises, mais c'était la sagesse qui est charnelle. Charnel, terrestre, diabolique, il y avait un zèle amer, un esprit de dispute, du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Si vous avez lu récemment 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, vous voyez que c'était bien le cas. Maintenant, malice, parce que ça parle ici, c'est le levain, parce que là, notre premier levain, là, c'est le levain de la malice et de la méchanceté. C'est identifié ici, là, au verset 8. La malice, c'est une aptitude, une inclinaison à faire le mal, à nuire par des voies détournées. Quelqu'un de malicieux, il y a un côté détourné qui n'est pas directement... La méchanceté, c'est beaucoup plus direct. La cruauté, la dureté, la malignité, la malveillance. Mais les deux, mettons que ce n'est pas très bon. Et n'est-ce pas, écoutez bien, la définition même de l'esprit qui a voulu s'immiscer dans nos églises depuis 2020, quand on y pense. Puis laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense ça. Il y a eu les effets de tout, tu sais, ce que le monde a voulu imposer sur l'église. Ça l'a amené un climat de méfiance, un climat souvent justement de, même de délation, de méchanceté. Un pasteur que je connais a dit... Moi, si je vois du monde, n'importe qui, chrétien, pas chrétien, qui font pas les règles, je les dénonce. Ça, je dirais que c'est-tu malice ou méchanceté, en tout cas? Je dirais que c'est pas mal... Ça rentre dans une des... Puis bien, tout récemment, avec l'idée, on laisse rentrer à l'église telle ou telle personne, n'est-ce pas, un levain qu'on laisse rentrer comme ça dans la Sainte Assemblée de Dieu, où est-ce qu'on laisse la culture, le monde... s'infiltrer comme ça, et c'est carrément, c'est malicieux, c'est une voie détournée de faire du mal, et c'est même cruel. Imaginez-vous, quelqu'un, je disais à un frère qui m'a demandé, « Hey, on devrait-tu le faire ou non? » J'ai dit, « Regarde, tu fais ce que tu veux, mais moi, je vais te dire, s'il y a quelqu'un qui se présente à la porte, puis qui est jamais venu, fais n'importe quoi, là, mais prêche l'Évangile, passe du temps avec, passe 2 heures dans le char s'il faut avec, mais hey, si Dieu te l'amène, là, faut pas que tu le mettes dehors. Là. Ça serait méchant, là. T'sais? Jésus a dit, comprenez-vous? Donc ça, c'est juste une première chose, le vin de la malice et de la méchanceté. Là, ça va pas prendre moins de temps, j'ai écrit les références, mais on a une deuxième référence aux... sont pas dans l'ordre chronologique de la Bible, là, des livres de la Bible, mais j'ai retenu le deuxième dans Galates au chapitre 5, le levain du légalisme. Vous courriez bien, ça c'est dans Galates chapitre 5, versets 7 à 12, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence, hein, l'idée d'influence, ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, et c'est ça l'idée du légalisme ici, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? On sait que c'était le problème en Galatie, et Paul, il dit au verset 10, « J'ai confiance que vous ne penserez pas autrement. » Il faut voir que le levain du légalisme est une façon de penser. Elle aussi pernicieuse, elle aussi avec une subtilité qui s'immisce comme un levain avec un effet sur l'ensemble. Et le plus ratoureux là-dedans, c'est que c'est fait avec bonne volonté et sincérité. C'est pas... En fait, le terreau fertile de ce levain est justement la bonne volonté, la sincérité. Mais le problème, c'est que c'est la mentalité du faire au lieu de celle du fait. Est-ce que j'essaye de faire ou je me repose et je réponds au fait que Christ a tout accompli et que ma vie est en réponse à l'œuvre de Christ? C'est toute une différente façon de penser. C'est pour ça que Paul dit, j'ai cette confiance dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. C'est une autre pensée, c'est étranger au pur évangile, à l'ensemble de la parole de Dieu, cette pensée, ce levain du légalisme. Et comment ça se voit parmi les chrétiens, parmi les églises? Un fait avancer de plus en plus vers la mort, la séparation, puis mort en dedans, puis les remords et tout ça. Tandis que l'autre, lorsqu'on se repose sur le fait que Christ a tout accompli et que Christ est notre vie et qu'on vit par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, ça produit la vie. Ça nous fait grandir dans cette vie christique qui porte le fruit de l'Esprit. C'est vraiment la différence entre le jour et la nuit. Et ce qui est si important, c'est de garder Christ au centre, parce que c'est lui qui est tout, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui doit être à l'avant-plan de nos pensées, de nos réunions et de nos relations. D'où l'importance du repas du Seigneur. Dieu dans la sagesse dit « Revenez toujours à la croix ». Puis Paul dit « J'ai pas d'autre idée d'aller parmi vous que de prêcher Christ et Christ crucifié ». Maintenant, un autre levain, celui de l'hypocrisie. Dans Luc 12:1, ça dit « Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns sur les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie ». Notez qu'ici, Jésus donne son avertissement après avoir dénoncé, quand on lit là, dans Luc 11, en fait, c'est la version courte de « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». La version courte est dans Luc, la version plus élaborée est dans Matthieu 23. Donc, Jésus a dénoncé leur hypocrisie. Et vous savez, le levain, on parle toujours d'une petite quantité tout le temps, ça n'en prend pas beaucoup. Donc, on voit que tous ces levains qu'on voit, ils ont tout le temps un élément trompeur, pernicieux, pas évident. Et cette hypocrisie, elle est sournoise. Parce qu'elle prétend, c'est prétendre avec l'hypocrisie d'être ce que nous ne sommes pas en réalité. C'est ça l'hypocrisie. Mais ça veut dire qu'on rejette celui qui est notre nouvelle identité. C'est ça qui est grave. Quand on prétend d'être ce qu'on n'est pas, c'est qu'on n'accepte pas ce que Dieu a fait de nous. Pensez à ça. L'hypocrisie, c'est un rejet de ce que Christ a fait de nous lorsqu'on est un enfant de Dieu. C'est pour ça que les chrétiens et les églises qui tolèrent l'hypocrisie vont avoir les mêmes malheurs que Jésus dénonce dans Matthieu 23, dans Luc 11. Parce que c'est ça que ça donne. C'est la voie du malheur. C'est un rejet de la grâce de Dieu. C'est insister sur la contrefaçon devant celui qui est le produit original, le vrai, le véritable. Et vous connaissez le passage, j'aime tellement ce passage-là. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, avec un V majuscule. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles, de la contrefaçon. Je viens de vous lire 1 Jean 5, 20 et 21, la conclusion de son épître. Le quatrième levain, c'est celui de la fausse doctrine. Et ça, on a ça dans Matthieu 16. Je vais vous lire quelques versets. « Les disciples passant sur l'autre bord avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas des pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains et des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportées? Comment ne comprenez-vous pas que c'est au sujet que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, écoutez bien, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement. L'enseignement des pharisiens et des sadducéens. La fausse doctrine. Bon, eux autres, c'est un légalisme très, très fort. Il y avait beaucoup de faux enseignements dans cette secte très rigide du judaïsme. Mais remarquez qu'il y a deux groupes qui sont nommés sadducéens et pharisiens. Les pharisiens, c'était les ritualistes, les traditionnalistes. Qui avaient l'apparence de la piété, mais qui erronaient ce qui en faisait la force. Les sadducéens, c'était les rationalistes. on dirait les théologiens libéraux, si on les mettait à cette époque, ils ne croyaient pas au surnaturel, résurrection, les anges, ils ne croyaient pas à ce qu'ils ne voyaient pas. Donc, pour l'équivalent moderne, les pharisiens seraient une religion morte, externaliste, qui se contente de la forme seulement sans voir le fond. Les sadducéens seraient une religion de logique, de science, ou science faussement ainsi nommée, sans la parole de Dieu. OK? Et ça, c'est le levain de la fausse doctrine. Et maintenant, je veux juste remarquer que, encore là, n'est-ce pas que... Parce qu'on peut penser, ah, les libéraux là-bas, loin, là, tu sais, les religions. Mais pour le rapprocher de nous autres, n'est-ce pas que Dieu a démasqué ce levain en 2020-2021? Ou est-ce qu'il y a deux grandes tendances qui se sont révélées en réponse à ce que Dieu a envoyé? On va faire toutes les mesures, on va faire tout ce qu'il faut qu'on fasse. Puis c'est là notre sécurité, c'est notre identité. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais souvent, c'est devenu la confiance des gens, puis ça l'a détrôné l'autorité de Christ. Comme les pharisiens avaient toutes sortes de bonnes choses, la parole qu'ils faisaient, mais ont détrôné Christ et l'ont rejeté. Ça, c'est le côté pharisien. Pour le côté sadducéen, mais c'est tous les raisonnements pour justifier de trouver 36 raisons de ne pas écouter Dieu, simplement. Comme j'entendais un prédicateur dernièrement dire, tu sais, là, le fameux passage dans que ça dit de tourner l'autre joue, là, tu regardes les commentaires, ils vont trouver 10 raisons de ce que. De 10 explications de ce que ce verset-là ne veut pas dire. Ah, oh, ben là, tourner la joue, c'est pas vraiment ça. Il dit, y a-tu quelqu'un qui dit que, tu sais, vraiment, des fois, il faut que tu tournes l'autre joue? J'avais trouvé ça bon parce que c'est vrai, pareil, tu vois, t'entends les prédications, puis, ah, oh, ben là, ça dit ça, mais tu sais, on peut quand même, puis. Je pense qu'on a aussi cette tendance-là. Avec. Tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans. Et c'est un levain destructeur et pernicieux parce que le fruit de ça, ça n'a pas été constructif, ça n'a pas été édifiant. Ça a été la division, le découragement, l'isolement. On reconnaît un arbre à son fruit. Marc 8 nous amène à un autre type et le dernier type de levain que je veux qu'on considère. Le levain d'Hérode. C'est dit, Jésus leur fit cette recommandation, Marc 8, 15. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain d'Hérode, on pourrait dire, c'est le levain de l'immoralité et de la corruption. Cet homme était hautement immoral, corrompu. Celle-là, je pense que personne l'avait vu venir. Mais le phénomène sans précédent où la politique s'est ingérée dans toutes les facettes de nos vies. Puis est-ce que je peux vous dire que il y a l'immoralité et la corruption là-dedans. Est-ce que ça se peut? Oui. Puis dans les églises aussi. Je pense qu'on n'a pas besoin d'élaborer beaucoup pour voir et constater qu'effectivement, l'influence de l'immoralité et de la corruption, effectivement, s'est répandue comme un levain, avec ce levain d'Hérode. Écoutez ce sujet-là, Luc 6, 44. « Car chaque arbre se reconnaît à son fruit, et on ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur les ronces. » On reconnaît un arbre à son fruit. Et au lieu de soutrer, parce que ça, on peut tomber aussi dans ce piège-là, de soutrer, comment c'est donc choquant, oh, l'immoralité, le levain d'Hérode, nos mauvais dirigeants. Ça, c'est beaucoup la réponse du monde. Mais je pense qu'en tant que chrétien, on doit reconnaître, savez-vous quoi? On a le même cœur qui peut faire la même affaire. Puis si c'était pas de la grâce de Dieu, on serait pas mieux que Justin Trudeau, que François Legault. Puis... Ouais. Parce qu'on a le même cœur corrompu, puis méchant, on n'a pas eu les mêmes opportunités, les mêmes circonstances. Donc, ça devrait nous inciter à prier pour eux, pour nos dirigeants, pour ceux qui nous influencent, afin qu'ils connaissent cette même grâce, cette grâce salvatrice, que nous avons connu, celle d'avoir eu notre cœur de pierre, dur, remplacé par un cœur de chair, tendre. Puis c'est ça qui va renverser la dynamique que tout ce levain mauvais d'Hérode peut nous causer comme problème. Et je veux terminer là où on a commencé dans 1 Corinthiens 5, et je veux relire le verset 8. C'est quoi le premier mot? Célébrons. Célébrons. Combien de fois je vous ai dit, le repas du Seigneur, c'est une célébration. On a développé ça, mais c'est une célébration parce que c'est une gloire, c'est une joie, c'est une paix. Comme on l'a vu aussi ce matin, une unité spirituelle que produit la grâce rédemptrice et restauratrice de Dieu dans la vie non seulement des gens individuellement, mais d'une église comme la nôtre. Et là-dessus, j'ai retenu un passage que j'aime tellement, Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Oh, quelle grâce, quelle différence d'avec le levain de la méchanceté qui fait toutes sortes de morts puis de séparations. Cette vie de Christ, cette vie de l'esprit dans l'Église, ça produit ces belles choses-là. Il y a tout qu'un contraste de beauté, de bons fruits entre la grâce de Dieu versus le levain. Et cette croix que nous célébrons avec le repas du Seigneur, c'est le renversement de cette influence néfaste et destructrice par la grande victoire de la croix. Et je vous lis un autre verset qui est très cher à mon cœur, ben 3. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. » En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Seigneur, merci pour le triomphe de la croix qu'on s'apprête à célébrer, à se remémorer ensemble, d'un même cœur, dans la joie du salut. Sois-en glorifié, Seigneur, exalté au milieu de nous. Merci pour ta fidélité. Merci que comme Église, par le sang de Christ, par ton œuvre de grâce, on peut célébrer Christ, notre Pâque, dans la pureté de l'Église. Merci, Seigneur, que c'est toi qui fais ces bonnes choses. Ah oui, préserve-nous des diverses influences du levain, ou plutôt de l'influence des divers levains qu'on a vus. Seigneur, on ne veut pas être naïf. On sait que notre chair a chacun ses tendances. Et Seigneur, on vient se réfugier en toi. Merci que tu es suffisant. Tu es notre protecteur, notre haute retraite. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.